Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Jean Delumeau, bonjour.
Bonjour.
Jean Delumeau, vous êtes membre de l'Institut, vous appartenez à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Depuis quelle année, Jean Delumeau ?
1988.
Et quel siège occupez-vous ? Quel fauteuil ?
Et j'avais celui de Georges Dumézil.
Vous êtes professeur au Collège de France et vous êtes l'auteur, donc, de toute une grande saga, principalement éditée aux éditions Fayard et rééditée tous en livres de poche.
Très exactement, en 1972, après avoir terminé un certain nombre d'ouvrages, je feuilletais de la bibliographie et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas d'histoire de la peur, ce qui m'a beaucoup étonné. Et donc j'ai pris, après avoir feuilleté et feuilleté des livres, j'ai pris la décision de m'atteler à ce sujet qui était original du point de vue historique. C'était, si j'ose dire, un créneau à occuper. Et donc j'ai pris la résolution pour moi-même que je ne signerai plus aucun autre contrat tant que je n'aurai pas mené à bien une histoire de la peur. Mais en même temps, je me suis aperçu que je ne voulais pas en rester à une histoire de la peur. Et donc, j'ai pris également un autre engagement à très long terme vis-à-vis de moi-même, que un jour je sortirais de la peur pour aller plus loin. Et c'est ainsi que j'ai été amené, après les deux livres sur la peur, à écrire un livre ou deux livres sur le sentiment de sécurité, rassurer et protéger et l'aveu et le pardon, et d'entreprendre enfin, si j'ose dire, une histoire de l'espérance en trois volumes. Je ne savais pas que ça me conduirait aussi loin. En trois volumes, c'est-à-dire d'abord le jardin des délices, c'est-à-dire l'histoire du paradis terrestre, puis 1000 ans de bonheur, c'est-à-dire finalement à partir de l'Apocalypse, le chapitre 20, ce qui a donné le millénarisme, puis le socialisme. Et enfin, que reste-t-il du paradis, c'est-à-dire de l'au-delà? Alors cela m'a pris 28 ans d'horloge, si j'ose dire.
Dans l'ordre chronologique de parution, j'ai cité La peur en Occident.
Ensuite, c'est Le péché et la peur, qui est le plus gros de mes livres.
Ensuite,
alors Rassurer et protéger, donc on aborde le sentiment de sécurité, complété par l'aveu et le pardon.
Et Histoire des pères et de la paternité,
alors ça, c'est
édité
autre chose.
Chez Larousse.
Oui, alors ça, il s'agit d'un ouvrage composé, rédigé, un ouvrage collectif, conçu et rédigé dans mon séminaire du Collège de France. Parce que dans mon séminaire du Collège de France, nous avons réalisé un certain nombre d'ouvrages collectifs qui ont été publiés, dont l'histoire des pères et de la paternité.
Est-ce qu'on a fait le tour ?
Pas tout à fait.
Pas tout à fait.
par exemple, dans les ouvrages composés dans mon séminaire et qui ont été publiés, il y a La religion de ma mère, c'est-à-dire la transmission de la foi par les femmes dans la suite des siècles, depuis les premiers siècles chrétiens jusqu'aux grands-mères soviétiques, de l'époque soviétique. Et puis nous avons fait aussi une histoire de la première communion en France. Car un jour, Lucien Febvre, qui a été un grand historien et qui était plein d'idées, avait écrit « Comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'histoire de la première communion ?» Car ça a été un rite au 19e et au premier partie du 20e, un véritable rite de passage. Donc nous avons suivi l'histoire de la première communion en France. Je précise que le Moyen-Âge ne connaissait pas la première communion. Et la première communion que nous avons trouvée comme cérémonie en France, c'est 1593.
Ah oui, tout à fait. Donc nous aurons peut-être l'occasion de retracer cette histoire de la communion devant les micros de Canal Académie.
C'est un sujet tout à fait passionnant, intéressant et très révélateur.
Mais aujourd'hui, Jean Delumeau, vous nous entraînez au paradis. Et nous allons donc,
volontiers,
dans cette émission, évoquer avec vous cette trilogie consacrée à ce thème, lui aussi peut traiter l'histoire du paradis.
Oui, c'était une lacune. C'était une lacune d'autant plus que, bien souvent, il y avait une sorte de mépris historiographique ou de manque d'intérêt pour le thème du paradis. Et on disait souvent que le christianisme avait mieux réussi l'enfer ou le purgatoire que le paradis. Parce qu'effectivement, si on se reporte par exemple à la Divine Comédie de Dante, l'enfer et le purgatoire sont particulièrement pittoresques. Mais on oublie que dans la Divine Comédie, le paradis lui aussi est très réussi, mais avec beaucoup moins d'images et beaucoup plus de musique.
Donc moins d'attraction,
oui,
alors, au premier regard.
Voilà, et puis surtout, on avait fait une fixation en particulier dans la première partie du Moyen-Âge, on avait fait une fixation sur les jugements derniers. Or, les jugements derniers ont plus retenu l'attention, peut-être, par l'image des diables qui emmènent les damnés vers les marmites de l'enfer que la sage procession de l'autre côté des élus. Mais dans l'histoire du paradis, il n'y a pas que les jugements derniers. Et il y a bien d'autres thèmes que j'ai essayé justement d'analyser et de mettre en relief.
Mais si c'est l'image des chaudrons, l'image des supplices de ce jugement dernier qui ont retenu l'attention essentiellement de nos contemporains et des lecteurs et des auteurs des siècles passés, c'est peut-être relié à cette notion de peur que vous évoquiez tout à l'heure.
Oui, alors d'une part, on redoute la peur, bien sûr, mais en même temps, d'une certaine façon, on s'y complaît parfois, d'où le succès des films d'horreur. Oui.
C'est un élément que l'être humain connaît.
Alors, on pourrait d'ailleurs épiloguer sur ce problème, si vous voulez, une parenthèse anthropologique, parce qu'elle éclaire toute cette production dont nous venons de parler. Je dirais une exception humaine dans la nature. Cette exception humaine fait que l'homme est d'une part l'être qui a beaucoup plus peur que les autres êtres de la nature, parce qu'il anticipe sa mort. Or, l'animal peut anticiper sa mort si elle est proche de lui, si vous voulez, mais il ne va pas la conceptualiser 20 ans, 30 ans à l'avance. Or, le petit homme sait dès l'âge de 4-5 ans qu'il mourra. Donc, l'homme est par excellence l'être qui a peur. Mais en même temps, plus que tous les êtres de la nature, c'est l'être qui espère. Et justement, le paradis, c'est le bout de cette espérance.
Alors justement, vous avez exploré à travers ces trois tomes les différentes figures qu'a pu prendre le paradis au cours des siècles, du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Vous nous rappelez en ouverture du tome 1 que le paradis fut d'abord et longtemps, écrivez-vous, le paradis terrestre. Car le mot paradis, écrivez-vous, sans épithète, désigne essentiellement le jardin des délices où vécurent un moment Adam et Ève, je vous cite.
Oui, mais absolument. Le mot paradis veut dire jardin, et même plus précisément, c'est un mot perse qui a été ensuite hellénisé en paradaïsos, qui est devenu notre paradis, et ça désignait, dans le langage persan de jadis, un jardin verdoyant, protégé par des murs, c'est un enclos, protégé par des murs contre les vents brûlants et desséchants du désert. Voilà ce qu'est le paradis. Et quand beaucoup de gens actuellement rêvent de paradis, ils rêvent en quelque sorte d'île bienheureuse, quelque part dans un océan lointain, n'est-ce pas ? Et on ne souffrirait ni du froid, ni du chaud, et on y serait heureux tout le temps, mais on sait bien que ce n'est pas vrai. Et qu'il y a des tsunamis dans les pays paradisiaques.
Est-ce que le paradis, jardin terrestre, est le même que le paradis auquel nous accéderions la mort venue? Est-ce qu'il s'agit des deux mêmes paradis? Première question.
Alors c'est une question très importante, notamment pour le christianisme, mais c'est vrai aussi pour l'islam. Donc, il y a eu, au cours des âges, transposition dans l'au-delà du jardin d'ici-bas. Le jardin d'ici-bas était perdu, mais on le retrouverait. Alors, on peut dire que c'est une certaine façon de parler, une certaine façon de conceptualiser un bonheur qui deviendrait éternel. Mais je me suis demandé quand, pour la première fois dans l'histoire chrétienne, on avait imaginé le paradis définitif comme un jardin. Et le premier texte que j'ai trouvé est du milieu du 3e siècle, après Jésus-Christ, dans l'entourage de saint Cyprien, où vraiment le paradis définitif est décrit comme un jardin bienheureux, voyez. Alors, ceci s'est amplifié au cours des siècles, et en particulier, par exemple, dans mon livre « Que reste-t-il du paradis ?», j'ai attiré l'attention sur un ensemble de mosaïques très connues, c'est celle de l'église Saint-Apollinaire in Classe de Ravenne, où il y a une magnifique représentation paradisiaque qui date du 6e siècle. Et puis aussi, j'ai fait pivoter un peu mon livre « Que reste-t-il du paradis ?» autour de l'agneau mystique de Gand, qui, à mon avis, d'ailleurs, était mal nommé. C'est un titre qui n'est pas de l'époque, qui est du XVIIe siècle, alors que l'agneau mystique est du XVe. Mais en réalité, à mon avis, l'agneau mystique de Gand, il faut l'interpréter comme une Toussaint. C'est le rassemblement des élus, après le jugement dernier, c'est le rassemblement des élus autour de l'agneau mystique, c'est-à-dire de Jésus.
Alors, vous ajoutez que durant de nombreux siècles, près de 3 millénaires, les Juifs puis les chrétiens, à quelques exceptions près, écrivez-vous, ne mirent pas en doute le caractère historique du récit de la Genèse. Et il y a donc une situation géographique de ce lieu.
J'essayais de suivre les aléas de cette géographie. Alors, ceci part du texte de la Genèse, mais qui très longtemps a été pris au pied de la lettre comme un récit historique. C'est la grande différence avec aujourd'hui. Encore qu'il y a un certain nombre de fondamentalistes qui aujourd'hui croient encore que le monde a été créé en 6 jours et qu'il y a eu un paradis terrestre. Mais enfin, l'ensemble des gens n'y croient plus, n'est-ce pas ? Et on sait que ça a mis longtemps à se constituer. Et Teilhard de Chardin avait écrit qu'il n'y a sur Terre aucune cicatrice du paradis terrestre. Donc, il nous faut faire notre deuil du paradis terrestre, ce qui a des conséquences théologiques, entre parenthèses.
Une très belle image.
Ah oui. Mais de toute façon, pendant très longtemps, on a imaginé, effectivement, le paradis terrestre en le situant.
En le situant. Voilà, je donne lecture des paragraphes que vous citez de la Genèse. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Le Seigneur Dieu fit germer du sol tout arbre d'aspect attrayant et bon à manger, l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Un fleuve sortait d'Éden pour irriguer le jardin. De là, il se partageait pour former 4 bras. L'un d'eux s'appelait Pishon, le jaillissant. C'est lui qui entoure tout le pays de Hawila où se trouve l'or, et l'or de ce pays est bon, ainsi que le bdellium et la pierre d'onyx. Le deuxième fleuve s'appelait Gilon, le bondissant. C'est lui qui entoure le pays de Couche. Le troisième s'appelait Tigre. Il coule à l'Orient d'Assour. Le quatrième fleuve, c'était l'Euphrate. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol et le garder. C'est donc la lecture de la page 11 de votre premier tome sur cette histoire du paradis, Jean Delumeau.
Longtemps au Moyen-Âge, on l'a situé entre guillemets quelque part en Orient. Et puis ensuite, à partir du XVIe siècle, et notamment plus particulièrement à partir de Calvin, du protestantisme, alors il y a eu un effort pour le situer géographiquement, en gros, dans l'Irak actuel.
Donc ce sont les localisations les plus précises que nous avons pu avoir au cours des siècles.
Mais il y a aussi quelque chose à quoi on pense rarement. C'est que au cours du Moyen-Âge et encore de la Renaissance, disons jusqu'à Calvin, enfin un peu plus loin, longtemps on a pensé que si le paradis terrestre était quelque part en Orient inaccessible, barré par l'épée d'un chérubin, par une muraille de feu, en revanche, des contrées proches du paradis terrestre conservaient quelques éléments majeurs du paradis d'autrefois et par conséquent avaient des richesses extraordinaires. Ça donnait naissance, par exemple, à la légende du prêtre Jean, qui s'est poursuivie durant tout le Moyen-Âge. Et le royaume du prêtre Jean, finalement, n'a disparu qu'au XVIe siècle dans l'imaginaire des gens, voyez-vous. Et d'autre part, on pense rarement que les voyages de découverte de la Renaissance ont été motivés, pas uniquement bien sûr, mais par l'idée qu'il y avait quelque part des terres extrêmement riches en Orient, qu'il fallait y accéder parce qu'elles avaient encore des éléments et conservaient des éléments accessibles du paradis terrestre. Et Christophe Colomb est un de ceux qui croyait que le paradis terrestre se trouvait en Orient. Alors, ça l'a amené en Occident. Mais quand il est parti pour son premier voyage, il pensait, par l'Ouest, arriver jusqu'en Chine. Et ensuite, quand il a découvert quelques endroits de l'Amérique du Sud, sans savoir qu'il s'agissait d'un continent, eh bien, il a pensé qu'en remontant l'Orénoque, qui était un fleuve, pensait-il, qui arrivait du paradis terrestre, on pourrait théoriquement arriver jusqu'au paradis terrestre, auquel, disait-il, personne ne peut accéder, sauf permission de Dieu. Mais voyez donc, les voyages de Christophe Colomb ont été en partie motivés par l'espoir de retrouver des pays proches du paradis terrestre.
Ah, c'était très ancré dans la mémoire collective.
Ah, mais absolument, absolument.
Cette notion de paradis, de jardin merveilleux et divin, existait-elle déjà dans l'Antiquité et dans quelle civilisation ?
Alors, on a fait des rapprochements depuis 100-150 ans entre le paradis terrestre de la Genèse et d'autre part l'épopée de Gilgamesh, où il y a aussi une sorte de paradis terrestre. Par conséquent, on pense même que les rédacteurs de la Genèse n'ont pas inventé le thème du paradis terrestre, en quelque sorte, qui se trouvait déjà dans la mémoire et même dans l'écriture de textes plus anciens, mais autour du pays des Juifs. Puis d'autre part, les Gréco-Romains ont inventé le thème de l'âge d'or, en particulier Hésiode, par exemple, qui le décrit très bien, et ensuite Ovide. De sorte que, à mon avis, le paradis terrestre chrétien ou christianisé a assimilé en même temps des éléments venus de la littérature gréco-romaine, sans parler de la littérature orientale, mais des éléments venus de la littérature gréco-romaine, et de sorte que on a, au cours des âges du christianisme, on a infusé en quelque sorte dans le thème du paradis terrestre des éléments qui venaient de Ovid ou d'Hésiode, etc.
C'est ce que vous appelez la christianisation des mythes gréco-romains.
Exactement, exactement. Et j'ajoute que, jusqu'au XVIIe siècle inclus, les érudits qui étudiaient la Genèse pensaient que Ovid, Hésiode, etc. avaient eu par des canaux mystérieux connaissance du texte de la Genèse. On le croyait encore couramment au XVIIe siècle.
Et que peut-on dire alors de la tradition hébraïque par rapport au paradis? Est-ce qu'elle est très éloignée de la tradition devenue chrétienne par la suite?
Non. C'est-à-dire que, incontestablement, les Juifs de l'Ancien Testament croyaient au paradis terrestre et à Adam et Ève, mais simplement, ils n'ont pas accordé à ce thème toute l'importance que, ensuite, le christianisme ou l'islam lui ont donné. C'était un thème parmi d'autres, mais c'est ainsi que les personnes d'Adam et Ève sont présentes, mais très modestement, dans le reste de la littérature hébraïque. Je disais tout à l'heure que c'était aussi un thème théologique. Les Juifs de l'Ancien Testament, je pense aussi actuel, n'accordent que peu d'importance, ou plutôt pas du tout d'importance, au thème des péchés originels. Et dans un livre que j'avais dirigé, mais pas dans le Collège de France d'ailleurs, chez Fayard, le fait religieux, le représentant du judaïsme a écrit « Pour nous, Juifs, le péché originel n'existe pas ».
Donc ce sont des interprétations, on peut dire, très différentes, à partir des mêmes textes. Et des textes, comme vous le disiez, qui se sont tissés selon des traditions échangées de cultures.
Oui, il y a eu des interpénétrations incontestablement. Oui. Peut-être pas celles qu'on croyait au XVIIe siècle, entre Hésiode, Ovide et puis la Bible.
Dans le deuxième volume, Une histoire de paradis, vous consacrez tout cet ouvrage au grand courant millénariste. Expliquez-nous pourquoi les hommes ont-ils cru ou croient-ils à un règne du Christ sur la terre qui durerait 1000 ans et s'est annoncé où et pourquoi cette notion de 1000 ans?
Alors, bien sûr, on peut dire en quelque sorte que l'attente messianique de l'Ancien Testament, d'une certaine façon, s'est transformée en attente millénariste dans l'histoire chrétienne. Mais là, un rôle particulier a été joué par l'Apocalypse attribué à saint Jean et rédigé aux environs de 90 après Jésus-Christ. Car, alors que les Juifs n'accordaient que très peu d'importance au chiffre 1000 et qu'ils comptaient plutôt par 7, 7 fois 7, 49, suivi d'une année de jubilé, par exemple. En revanche, le chapitre 20, et uniquement le chapitre 20 de l'Apocalypse, fait un sort au chiffre 1000. Et en annonçant catégoriquement que, après toutes sortes de catastrophes, il y aura une sorte de parenthèse de 1000 ans. De 1000 ans, Satan sera cadenassé en enfer, il ne pourra pas nuire, la paix viendra sur la terre et le Christ reviendra sur terre pour y régner pendant 1000 ans avec, entre guillemets, les justes ressuscités. Puis, les 1000 ans écoulés, Satan sera libéré de sa prison. Alors il va à nouveau sévir et il y aura finalement le dernier combat entre le bien et le mal et ce sera le jugement dernier et l'éternité. Mais par conséquent, l'idée qu'il y aurait un règne du Christ sur terre pendant 1000 ans est une idée qui vient de l'Apocalypse attribuée à saint Jean.
Combien de cycles millénaristes a-t-on pu enregistrer? Combien de grands courants comme ça millénaristes au cours des siècles?
Alors il y en a eu nombreux, d'une part au cours de l'histoire chrétienne. Tantôt le chiffre 1000 a été entendu de façon rigoureuse, tantôt de façon symbolique. Et d'autre part, alors, comme durant le 3e et 4e siècle, un certain nombre de chrétiens étaient millénaristes et risquaient d'attendre, en quelque sorte, une parenthèse, entre guillemets, très charnelle de bonheur sur terre, saint Augustin, qui d'abord avait été millénariste, ensuite a combattu cette idée en disant, et en interprétant le chapitre 20 de l'Apocalypse en disant « Les 1000 ans ont commencé avec la naissance du Christ. » Donc il n'y a pas à attendre une période intermédiaire qui se terminerait par le jugement dernier. Non, nous sommes maintenant directement en route vers le jugement dernier. Donc voilà l'interprétation qui est devenue une interprétation officielle dans l'Église à partir de saint Augustin.
pourquoi dites-vous que la promesse du paradis terrestre s'est laïcisée en idée de progrès et en perspective d'utopie ?
Oui, d'une part, on voit naître à partir de, très précisément, de l'utopie de Thomas More, qui est de 1516. On voit renaître un thème platonicien, c'est-à-dire d'une cité idéale où tout marcherait bien et où, de façon, il est vrai, très autoritaire et très réglementée, l'humanité connaîtrait le bonheur. Thomas More reprend cette idée, reprise ensuite par un personnage très curieux auquel j'ai consacré un livre, Campanella, dans la Cité du Soleil. Et donc, dans la Cité du Soleil, Campanella entrevoit que l'histoire chrétienne va déboucher dans les mille ans de bonheur promis par l'Apocalypse. Et là, une société totalement socialiste et l'humanité entière gouvernée par le pape. Je dis bien par le pape. Il était en prison. Hein. Et qui serait heureuse pendant mille ans avant les cataclysmes des derniers jours. Donc, alors ce thème s'est laïcisé au XVIIIe siècle. Les utopies se multiplient et aussi au XIXe. Et on entrevoit un bonheur qui serait de moins en moins un bonheur religieux, qui serait de plus en plus un bonheur humain,
sociétal,
avec les progrès de l'instruction, de la technique, etc. On aurait à la fois le bonheur matériel et le progrès moral. Ça a été la grande croyance du 19e siècle. Je ne dis pas qu'il n'y a eu que cela dans le 19e, mais enfin, il y a eu cette grande croyance dans le 19e qui s'est effondrée sous nos yeux.
Et cette tendance donc au millénarisme se poursuit. Je crois que certains interprètent encore. On parle de l'année 2012. On passe automatiquement par l'Apocalypse avant de...
Oui. Alors là, 2012, ça vient du calendrier maya. Mais moi, j'avoue que je n'accorde pas énormément d'importance à ces, comment dirais-je...
À ces prévisions apocalyptiques et paradisiaques.
Qui reviennent régulièrement au cours des âges. Et je dirais que ça n'empêche pas finalement les gens de dormir. Et par exemple, déjà pour l'an 2000, il y avait eu une certaine effervescence médiatique autour de l'an 2000. Et puis finalement, c'est tombé à plat. Et l'an 2000 s'est bien passé.
Tout à fait. Alors, beaucoup de questions se posent, se sont posées. Est-ce que le paradis, c'est le royaume des cieux?
Ah, alors, ici justement dans mon livre, le dernier des trois, « Que reste-t-il du paradis ?» J'ai fait remarquer au lecteur que Jésus n'a jamais décrit le paradis. Et la seule mention du mot « paradis » dans les évangiles, c'est au moment de la mort de Jésus, quand Jésus dit au bon larron « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis ». Et cette phrase est presque toujours mal comprise. Jésus, ici, n'a pas voulu parler du paradis comme au-delà, mais du paradis comme lieu d'attente des justes, là où les justes attendent la résurrection. Tu seras aujourd'hui même dans le lieu où les justes attendent la résurrection. Et d'ailleurs, dans l'iconographie grecque-byzantine, il y a très souvent cette magnifique image de la résurrection et le Christ tend les deux bras et les deux mains et par une main il tient Adam, par une autre il tient Ève et il les fait ressusciter avec lui. Voilà ce que signifiait le paradis dans la promesse de Jésus.
Et quel est le mot utilisé alors ?
Alors, c'est royaume des cieux. Jésus ne parle que du royaume des cieux, à part cette exception que je viens de dire. C'est le royaume des cieux et il ne décrit jamais le royaume des cieux. Simplement, il l'évoque notamment dans le chapitre 25 de Matthieu, c'est-à-dire le jugement dernier. Et j'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venu me visiter aussi. Vous avez eu soif, vous n'aurez plus soif. Vous aviez faim, vous serez rassasié. Vous avez fait miséricorde, vous aurez miséricorde. Voilà, donc il s'agit essentiellement d'un rapport à l'autre, d'un rapport à Dieu. Il n'y a aucun catéchisme là-dedans. Il n'y a aucun dogme, il faut le dire quand même, hein. Il n'y a aucun dogme, mais il y a la promesse que la bonté engendrera la bonté définitive. Elle relationne, c'est pour ça, prenant le contre-pied d'une phrase de Jean-Paul Sartre qui avait écrit « L'enfer, c'est les autres », moi j'ai écrit « Le paradis, ce sera les autres ».
Oui, et plusieurs spécialistes de Sartre disent aussi que c'est une phrase sortie du contexte de Sartre. Parce que Sartre attendait un tel relationnel venu des autres qu'il a émis cette phrase qu'on...
Voilà. Oui. Néanmoins, si vous voulez, il a conçu un peu la société comme un huis clos.
Oui, tout à fait. Mais qu'il n'aurait peut-être pas voulu voir comme un huis clos, mais qu'il dénonçait comme étant un huis clos.
Alors là,
peut-être.
Je vous l'accorde volontiers. Voilà. J'ai peut-être effectivement sorti de son contexte la phrase de.
Peut-être en souffrait-il.
Oui, sûrement. Sûrement. J'ai voulu en quelque sorte faire comprendre.
Tout à fait.
Faire comprendre par contraste avec la phrase de Sartre, ce qui est pour moi le paradis chrétien. Le paradis chrétien, ce sera les autres autour du Christ ressuscité.
Nous parlions de l'étymologie du mot paradis, royaume des cieux, utilisé par Jésus lui-même, la seule fois qu'il a prononcé. Il y a aussi les demeures, les plusieurs demeures dans la maison de mon Père.
Exactement.
C'est la façon dont Jésus a traduit aussi.
Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai, mais le mot demeure n'est pas explicité.
Oui, alors demeure, c'est.
Eh bien, demeure, vous serez auprès du Père. Voilà, c'est tout.
C'est pas un lieu, ça peut être un état.
Oui, alors, justement, à cet égard, malgré la très belle iconographie paradisiaque, contrairement à ce qu'on croit souvent, malgré la très belle iconographie paradisiaque du Moyen-Âge et encore de la période postérieure, cependant, on s'est rendu compte finalement que on ne pouvait pas décrire l'au-delà. Et le catéchisme du Concile de Trente, dont j'ai cité un passage, dit formellement que nous n'avons pas à chercher à imaginer le paradis. Voyez. Alors, en substance, c'est ça qu'il dit. Alors, j'ai rapproché cela, d'une part, d'une phrase de l'encyclopédie d'Alembert et Diderot, à l'article « Paradis », où il est dit précisément que le paradis n'est pas un lieu, mais un état. Phrase reprise mot pour mot, mais il ne le savait pas, dans le catéchisme de Jean-Paul II. Alors j'ai rapproché ces textes.
Ah, formidable. Selon vous, Jean Delumeau, y aura-t-il beaucoup de monde au paradis ?
Beaucoup, beaucoup. Alors j'ai essayé dans mon livre « Le péché et la peur », qui est le plus gros de mes livres, de dire tout le mal qu'avait pu produire la formule mal comprise, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et j'ai rappelé tout le nombre de tous les sermons qui ont été faits sur ce thème. Et mon livre se termine en disant que cette image qu'on avait donnée de Dieu a été une des causes de la déchristianisation et je maintiens ce jugement historique.
Avec le nombre d'élus restreint, les 144 000
alors,
dans l'Apocalypse.
Voilà, oui, il y a également dans l'Apocalypse, il y a « et une foule innombrable ».
Ah, oui. Merci Jean Delumeau de le rappeler.
Oui, parce que les 144 000, ça représente Israël. Et une foule innombrable. Donc, moi, j'insiste sur la foule innombrable, parce que pour moi, le message de Jésus, qui était incontestablement quelqu'un issu du judaïsme, mais la nouveauté de son message, c'est que, en quelque sorte, la nouvelle alliance est faite avec l'humanité dans son ensemble. Le peuple lit à partir de Jésus, c'est l'humanité tout entière.
Je lis la citation que vous citez, page 444 de votre livre, dans l'Apocalypse. « Après cela, je vis, c'était une foule immense que nul ne pouvait dénombrer de toute nation, tribu, peuple et langue. Il se tenait debout devant le trône et devant l'agneau, vêtu de robes blanches et de palmes à la main. »
Et j'insiste pour dire que ce message, à mon avis, conserve aujourd'hui encore toute sa nouveauté, toute sa fraîcheur.
Vous écrivez page 443, donc toujours du tome 3, une histoire de paradis, Jean Delumeau, qu'une revendication venue des profondeurs de la sensibilité occidentale tendit surtout à partir du XVIIIe siècle à valoriser les retrouvailles dans l'au-delà des êtres que nous avons aimés. Et là, dans différents chapitres, vous insistez sur ce besoin psychologique qui continue aujourd'hui de nous habiter. Un paradis chrétien tourné plus vers l'humain, comme vous le disiez tout à l'heure, que vers le divin, on pourrait dire, que vers les siècles passés.
Je dirais les deux à la fois. Hein.
Oui, les deux à la fois. Mais un réconfort avant tout.
Oui,
ce réconfort.
Alors là, j'ai commencé notre conversation par quelques mots d'anthropologie. L'homme, l'exception humaine, c'est-à-dire celui qui a peur et celui qui espère. Eh bien, je dirais que l'humanité, à mon avis, a commencé à mériter ce nom au cours de l'évolution à partir du moment où elle a rendu un culte à ses morts. Et à chercher par conséquent à se relier aux autres humains par-delà la mort. Et je crois que ça, c'est une caractéristique de l'homme. Et je m'inquiète quand une civilisation néglige en quelque sorte le culte des morts. Je crois que c'est une dimension essentielle de l'être humain de vouloir se relier à ses morts.
Oui, vous nous rappelez que les plus anciens rites funéraires remontent à 90 000 ans avant notre ère.
Oui, dans la région de Nazareth. Dans l'état actuel des connaissances, peut-être qu'on en trouvera de plus anciens. Mais enfin, et là, on a trouvé des tombes, donc de moins 90 000, moins 100 000, avec des pollens de fleurs, également des boîtes cervidées réputées en quelque sorte immortelles. Donc c'est la preuve qu'on avait voulu se relier aux morts par un rituel évoquant l'immortalité.
Donc ces rites, ces traditions, cette attention aux défunts, c'est pour tisser une relation, c'est pour aussi tisser un pont et exclure un peu, se préserver de cette peur de la mort, l'apprivoiser en quelque sorte.
Apprivoiser la mort. Alors j'ai terminé donc ce troisième tome, Que reste-t-il du paradis, par une citation de Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila, dit-elle, elle avait une vision, elle avait été transportée, je cite, au paradis. Et là, les premières personnes que j'y vis furent mon père et ma mère.
C'est une très belle invitation. Page 446, vous nous dressez ce tableau magnifique. Vous dites « Le paradis chrétien se présente en effet comme une situation d'harmonie parfaite entre les êtres humains. Il remplacera par la concorde et l'amitié les haines nées du péché. » C'est toute l'aventure humaine que vous nous décrivez.
C'est toute l'aventure humaine, donc ça se terminera bien.
C'est magnifique. Jean Delumeau, vous évoquez l'insistance du romantisme. Alors, il y a eu toute cette période romantique qui, elle, a magnifié ces états de souffrance, de douleur, en se flagellant quelque part pour chanter la souffrance.
Oui, mais en même temps, le romantisme, pas toujours, mais ouvrait aussi sur un au-delà de paix.
Vous citez la quête spirit en citant notre grand Victor Hugo, cette recherche.
Ça, c'est le lien avec les morts, voyez-vous.
Le lien avec les morts. Mais on peut vous demander alors aujourd'hui, Jean Delumeau, que reste-t-il du paradis?
Alors, je ne peux donner que ma réponse personnelle. Toutefois, cette réponse personnelle est aussi une réponse d'historien. Ce titre « Que reste-t-il du paradis » renvoie à une situation précise. C'est-à-dire à partir du moment Copernic, puis Galilée et Newton, etc., Kepler interviennent, ils font s'effondrer la cosmographie aristotélicienne dans laquelle le Moyen-Âge avait situé le paradis. Donc le paradis n'avait plus de lieu, le paradis n'était plus un lieu. Et la question, depuis lors, que reste-t-il du paradis? Alors, il reste évidemment une situation, je reprends, si vous voulez, la formule à la fois de l'encyclopédie et de Jean-Paul II, il reste une situation qui ne nous est pas possible de décrire, mais qui nous est possible d'espérer, une situation de réconciliation de l'humanité avec elle-même et avec Dieu.
Vous nous expliquez qu'avec la conquête de l'espace, qu'avec la physique quantique, qu'avec toutes les dernières découvertes magnifiques scientifiques, le paradis n'a plus d'espace, n'a plus de lieu.
Il est hors espace et hors lieu.
Alors où est-il ce paradis, Jean Delumeau?
Je ne peux pas répondre. Pour la bonne raison que la question que vous posez, chère madame, c'est en termes d'espace, où? Et nous ne pouvons pas, nous, avec notre imagination et notre science humaine, nous ne pouvons pas aller au-delà du temps et de l'espace. Mais je reprendrai ici une formule de Hans Küng dans un petit livre récent très intéressant, un petit traité du commencement de toute chose, publié au Seuil il y a 2 ans. Et il dit, ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas voir derrière le rideau qu'il faut dire qu'il ne s'y trouve rien. Eh bien, on peut dire qu'il y a quelque chose au-delà du rideau, le décrire. C'est impossible puisque nous ne pouvons le faire qu'en termes de temps et d'espace.
Vous nous rappelez, Jean Delumeau, que le mot paradis revient rarement sous la plume, par exemple, d'un Luther, dans le protestantisme. Il n'apparaît jamais, d'ailleurs, dans les 36 cantiques qui sont authentiquement de lui. Lorsque vous parlez de l'attitude protestante vis-à-vis du paradis, en parlant de Luther, de Calvin, vous parlez d'invitation protestante à la sobriété à propos du paradis. En terre protestante, la priorité n'était pas de décrire en détail les lieux paradisiaques, mais d'inciter au désir de la joie parfaite et d'indiquer le chemin de foi et de vertu sans y parvenir. Alors, si vous pouviez nous faire cette spécificité protestante, nous en parler
oui,
un peu.
Oui, alors, précisément, notamment sous la plume de Calvin, le mot sobriété revient souvent. Et vous savez que, plus généralement, le protestantisme s'est insurgé contre le trop-plein d'images, en quelque sorte, dans lequel avait versé le Moyen-Âge. Ceci dit, je pense que le Moyen-Âge a eu de très belles réalisations artistiques. Mais enfin, bref, le protestantisme a invité à ne pas imaginer le paradis. Et Luther a eu cette très intéressante formule en substance, je ne la connais pas par cœur. Hein. De même que l'enfant, dans le sein de sa mère, ne sait pas bien ce qu'il y a à l'extérieur, ce qu'il va trouver, de même, nous, nous avons très peu de choses de l'au-delà. Et je crois que cette invitation à la sobriété, à la modestie, à l'humilité en ce domaine est une invitation très utile. Alors, en revanche, nous n'avons pas encore dit peut-être, mais que je peux rajouter ici, c'est que le paradis n'a pas été absent du protestantisme, mais le protestantisme a utilisé particulièrement le chant et la musique pour le trouver. Et je pense que de nos jours, la musique est précisément un des chemins du paradis.
Il y a aussi cette notion de curiosité. Ne soyez pas trop curieux, vous les humains. Luther dira, laissons-la donc, cette curiosité. Il ne faut pas que nous soyons trop curieux. Et il parlait de cette docte ignorance qu'il fallait respecter,
voilà,
savoir
oui.
respecter.
Eh bien justement, je crois que plus que jamais, ce conseil s'adresse à nous, y compris d'ailleurs dans les autres dénominations chrétiennes, y compris dans le catholicisme. D'ailleurs maintenant, vous ne verrez guère une église catholique, une moderne si vous voulez, contenir une description du paradis. Non, pas du tout. L'art abstrait, à cet égard, est plus utile que l'art concret. Et par conséquent, il ne faut pas essayer d'imaginer le paradis, il faut faire confiance. Le mot « foi » veut dire confiance. Eh bien moi, je fais confiance, justement, aux paroles de Jésus quand il a évoqué le royaume des cieux comme étant l'espace ou le lieu de la miséricorde et de l'amour.
Peut-être aussi la présence du ciel dans la foi, dans l'âme du fidèle. Et comme vous le disiez, dans cette expression qu'est la charité vers l'autre et l'entente.
Alors
avec
justement,
l'autre.
Luther, suivi, qui avait un aspect de tempérament mystique. Luther, suivi par exemple, sans le savoir, elle ne savait pas, mais par Thérèse de Lisieux, a beaucoup parlé du paradis à l'intérieur de chacun des fidèles.
C'est très important cette notion, et vous le dites dans votre livre, s'il y a un déplacement des choses.
Voilà. Et alors justement, dans le livre, dans les résumés, dans le digest que je suis en train de faire de ces trois livres, je maintiens, et même j'insiste davantage, je maintiens tout ce qui concerne justement le paradis intérieur chez les mystiques, chez Luther et chez Thérèse de Lisieux.
Et nos contemporains auraient tendance à se diriger vers cette recherche.
Je les comprends parce que quand, par exemple, dans la presse, peut-être pas la presse quotidienne, mais la presse mensuelle ou hebdomadaire, on voit actuellement de plus en plus d'articles sur la méditation, sur le recueillement, sur la vie même des ermites. Eh bien, j'y vois justement une invitation à se regarder vers le paradis intérieur. Par le silence, essayer d'aménager, en quelque sorte, une situation de paradis intérieur.
Et alors, vous venez d'évoquer donc la reprise de ces trois volumes autour desquels nous avons bâti cette émission, une histoire de paradis qui serait revisitée, réactualisée
oui.
par vous-même, Jean Delumeau. Expliquez-nous.
Voilà, exactement. Revisitée, réactualisée. Parce que l'éditeur, qui est Fayard, a pensé à juste titre qu'il y avait dans l'opinion une demande de paradis. Et je prends un exemple très précis. À la fin du mois, le journal Libération organise son forum annuel à Rennes sur le thème du paradis.
Vous y serez ?
Oui.
Très bien. Le livre est déjà terminé ?
Il est terminé. Il va paraître cette année, sans doute à l'automne.
Très bien.
Le titre sera probablement « La recherche du paradis ». Donc il est revisité, comme vous disiez tout à l'heure, en ce sens que, naturellement, j'ai repris les thèmes de ces trois livres, mais avec un autre regard et beaucoup moins d'érudition, presque pas de notes.
Et quel est cet autre regard que vous nous proposez ?
Cet autre regard, c'est davantage une méditation sur notre comportement actuel vis-à-vis à la fois du paradis terrestre, du paradis sur terre et du paradis dans l'au-delà.
Alors, nous invitons les auditeurs de Canal Academy, même s'ils ont lu déjà les trois tomes de Une histoire du paradis, de se précipiter sur votre nouvel ouvrage qui portera le titre Une histoire du paradis.
La recherche du paradis.
La recherche du paradis. Merci de nous faire rechercher ce paradis perdu, mais retrouvé certainement.
Qu'on retrouvera.
Qu'on retrouvera. Merci Jean Delumeau.
Merci à vous.
Nous quittons Jean Delumeau avec la lecture de la page 467 et 468 du tome 3 de son Histoire du paradis. Un tome 3 intitulé « Que reste-t-il du paradis ?» Jean Delumeau explique À partir de la révolution scientifique du XVIIe siècle, une constatation s'est progressivement imposée. Le ciel et la terre appartiennent au même univers et sont soumis aux mêmes lois. Le ciel n'est pas le lieu de Dieu, ce que vérifia naïvement Gagarine, qui en plein XXe siècle en était resté à l'ancienne conception du ciel. Dès lors, le paradis ne peut plus être défini que comme une utopie, c'est-à-dire au sens étymologique de ce mot, forgé par Thomas More, comme un non-lieu. Est-ce à dire qu'il n'y a pas de réalité ? Et redoublement de l'interrogation, les espérances que recouvre le mot « utopie », cette fois dans le sens courant, sont-elles toutes des chimères ? L'humanité peut-elle vivre sans utopie ? Notre mot « paradis » englobe désormais tous les sens de l'utopie. Selon la foi chrétienne, il désigne non un lieu, mais un avenir, par-delà de la mort. Ou plus précisément, par-delà la résurrection. Car le diamant de l'espérance, né des évangiles, ce n'est pas que les hommes sont immortels, mais que les défunts, à l'appel de Dieu, qui les prend par la main, sortent du trou noir de la mort. Ils entrent alors dans une seconde vie, cette fois éternelle, mais se déroulant dans des conditions encore infigurables pour nous. S'éloignant de la tentation du merveilleux, le croyant d'aujourd'hui doit accepter le vide des représentations relatives à l'au-delà. Perte sévère, certes, mais compensée par l'histoire utopique d'une réalisation des béatitudes dans le monde à venir. Ces béatitudes sont en effet des utopies, comme le paradis lui-même, et il existe un lien étroit des unes à l'autre. La face cachée du monde sera celle où la prophétie de Jésus deviendra réalité. Ceux qui pleurent seront consolés. Ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés. Les miséricordieux obtiendront miséricorde, etc. Matthieu 5 et Luc 6. Le paradis sera l'actualisation de ces rêves fous, sans la présence desquels la vie sur terre tourne à l'enfer. À la question « Que reste-t-il du paradis ?», la foi chrétienne continue de répondre « Grâce à la résurrection du Sauveur, un jour, nous nous donnerons tous la main et nos yeux verront le bonheur. »